Bonjour et bienvenue à ce Bulletin Azur épisode de 8, enregistré le 12 juin 2012.
Et diffusé, on espère, avant le 20.
Voilà, exactement. Donc, pour rappel, l'URL de référence du Bulletin Azur, c'est akms/lebulletinazur, et ça vaut le coup de passer par cette URL de référence parce qu'il est en train de se déplacer un peu dans le Channel 9. On est devenu une série, puis après un show, et l'URL du show peut changer. Enfin bon. Donc, cette URL-là, elle reste valable, je la mets à jour au fur et à mesure. Donc voilà, les annonces sont faites sur le Twitter de Windows Azure France, Windows Azure Fr. Et puis également, vous pouvez nous écrire sur nos comptes Twitter. Donc Thomas n'est pas là aujourd'hui, mais il y a Pierre.
Voilà, et Benjamin,
Voilà.
et donc Thomas depuis Redmond cette semaine,
Voilà.
mais vous pouvez toujours lui envoyer, avec un peu de chance, il vous répondra. Il faut que ce soit tard le soir, simplement.
Ouais, je crois qu'ils ont Internet là-bas. Très bien, nous appuyons sur les Cloud Cover Show, épisode 80 à 83. Donc, quels sont les épisodes les plus intéressants là-dedans? En fait, moi j'ai bien aimé le dernier, évidemment, l'épisode 83, c'est toutes les nouveautés dont nous allons parler après.
Oui, c'est un beau morceau, mais
Oui.
on en reparlera.
Voilà. Et puis, en dehors de ça, alors il y a un épisode assez deep dive, hein, rentré dans le détail, qui est l'épisode 82, sur le storage Windows Azure. Donc, comment fonctionne et quelles sont les optimisations à faire en termes de clés de partition et clés primaires, en particulier sur les tables Azure, mais ça peut être applicable aussi au blob. Donc ça, c'est un épisode assez long et qui rentre bien dans le détail. L'épisode 81, Windows Azure Media Services, est sur un sujet qui est vraiment très intéressant, mais il n'y a aucune démonstration dans l'épisode, ce qui est un peu dommage. Donc voilà. Mais au moins pour comprendre de quoi il s'agit, etc., c'est un bon épisode quand même. Et puis, est-ce que l'Azure DataSync Preview, ça fait trop longtemps que je l'ai regardé pour me souvenir de quoi ça parle, mais voilà.
C'est notre serpent de mer qui est DataSync, qui réapparaît de bêta en bêta et de preview en preview et qui
Voilà.
avance. Voilà.
Les actualités. Donc, en termes d'actualité locale, d'abord, l'actualité, on n'en a mis qu'une pour l'instant.
Oui, et c'est même la seule qui mérite qu'on en parle. Donc, le 7 juin, il y a eu toute une vague d'annonces que vous avez peut-être suivies en anglais. Sur les nouvelles fonctionnalités, et il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans Azure. Le 20
Et les nouveaux
juin,
trucs.
ouais, il y a plein de nouveaux trucs. Le 20 juin, on passe la journée à en parler à Paris. Alors, avec des Américains qui parlent français, des Français qui parleront français aussi, enfin, on va essayer des
Tant
mots
qu'à
en
faire.
américain et des mots en français, et des questions en français.
Il y aura peut-être même des Américains qui parlent américain.
On espère qu'il n'y en aura pas trop, mais enfin,
Non,
on
ouais,
en aura
voilà.
quelques-uns. Donc, selon toute
Ouais. Quelques-uns.
vraisemblance, il est trop tard pour vous inscrire parce que l'événement, pendant qu'on enregistre, est presque plein.
Ouais.
Donc, vous pouvez quand même tenter le coup. On va essayer d'agrandir un petit peu les murs et de trouver une salle de plus, mais dans le pire des cas, vous aurez une session retransmise en direct le 20 juin pendant la matinée.
Voilà.
Et puis, on verra pour ce qu'on peut faire pour le reste.
Et ça risque d'être enregistré aussi. Enfin bon, donc voilà. Si vous n'arrivez pas à venir, on pourra trouver des moyens que vous ayez accès au contenu tout de même. Bon, et puis, bah, comme toujours, vous, sur le blog de Windows Azure France, blogsmsdn.com/WindowsAzureFrance, vous avez également l'actualité locale, en plus d'autres blog posts. Je propose de passer également sur les différents liens. Donc là, je vous ai mis le blog post de Channel 9 en cours de rédaction, à partir duquel nous allons pouvoir retrouver les différents liens. Donc le premier lien qui nous intéresse, c'est celui-ci, qui est donc. Bah, en fait, il y a eu le 24 mai dernier l'après-midi Hadoop sur Azure et consorts, avec tout un tas de démonstrations, dont la dernière démonstration qui était assez amusante avec Nao le robot, que vous aviez vu d'ailleurs dans le bulletin
Oui,
Azure,
qui
qui était
réapparaît de
là, là
langage en
même.
langage.
Exactement. Qui se tourne plutôt sur la gauche ou plutôt sur la droite, suivant qu'on tweet pour Batman ou Superman. Donc voilà, on attend les vidéos, mais elles devraient arriver d'un jour à l'autre. Et donc je mettrai à jour ici, là il y a quelques slides déjà qui sont disponibles à cet emplacement. Et donc je mettrai également les vidéos, enfin le lien vers les vidéos quand ce sera disponible. Ensuite, on va avoir Meet Windows Azure.
Oui, donc
C'est
rapidement
quoi TES?
là-dessus, les annonces du 7 juin ont été faites sur un site qui a été ouvert pour l'occasion, qui s'appelle Meet Windows Azure. Il y a eu ensuite, le 11 juin, un événement qui s'appelle Learn Windows Azure, auquel vous avez également accès. Et en fait, les deux sites vont vous ramener vers des contenus communs, mais ça vous donne les deux points d'entrée si vous voulez soit découvrir en une heure un overview des fonctionnalités, soit avoir ensuite un zoom sur les grands blocs de nouveautés qu'on va évoquer très rapidement dans quelques minutes. Voilà, donc si l'anglais ne vous rebute pas et que vous avez loupé le 20 juin, ben voilà l'endroit où vous allez trouver les éléments dont vous avez besoin pour creuser par vous-même.
Exactement. Ensuite, alors parmi les nouveautés, il y a Windows Azure Media Services, donc qui a été annoncé un petit peu avant le 7 juin, donc c'est pour ça qu'il est à part ici. Alors qu'est-ce que ça fait si on regarde sur l'URL de détail? On va avoir un peu plus de
Détail.
détails. En fait, à quoi ça sert? C'est un ensemble de web services qui permettent d'encoder par exemple des médias, donc typiquement de la vidéo. On va avoir par exemple un format de vidéo original à partir duquel on va vouloir décliner ça pour des grands écrans, des téléphones, des tablettes, etc., etc. Donc avoir ces encodages multiples qui demandent de la puissance de calcul. Et donc on va utiliser Azure pour faire ça. Et donc il y a une plateforme qui est vraiment spécialisée pour cet élément-là. Donc il y a deux types de SDK pour ça. Le premier SDK qui est l'utilisation des web services pour l'encodage, et le deuxième SDK qui est le fait de fournir des encodeurs.
Oui.
Donc c'est aussi une sorte de place de marché. Voilà. Donc je vous encourage à aller suivre les liens et regarder dans le détail pour voir en fait comment est-ce que ça fonctionne. Il y a même un exemple de code sur comment est-ce que ça s'utilise. Donc là par exemple un encodage de H264 vers du 256K.
Sachant que si vous vous y intéressez à titre professionnel, et ben contactez-nous. Parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu investi en temps et en énergie pour comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on a plein de clients qui sont intéressés. Donc si vous en faites partie et qu'on ne vous a pas encore vu, vous attaquez par Twitter ou par mail et vous nous contactez, et on organisera un petit rendez-vous pour vous montrer plus en détail ce que ça permet de faire.
Exactement. Signaler, donc il y a pas mal de frameworks qui permettent, entre autres dans Node.js, qui permettent de traiter des demandes HTTP de façon asynchrone. Et Signaler est un de ces frameworks-là qui a la particularité d'être fait en ASP.NET. Et pour pouvoir faire ça sur des fermes, donc avec plusieurs serveurs qui traitent les données entrantes, Clemence Vesters a proposé de faire ça avec.
Le service bus, imagine,
Forcément.
c'est Clemens.
Et donc voilà, il y a un blog post dans lequel il explique ça et il y a des bonnes performances, etc. Donc ça fait deux choses à découvrir d'un seul coup. Ensuite, un blog post que nous vous encourageons à lire une fois qu'on vous aura présenté rapidement les nouveautés. Thomas.
Qui est pas là,
Voilà,
mais.
a écrit un blog post sur la façon d'installer Redis sur une machine virtuelle Linux dans Windows Azure.
Peut-être pour ça qu'il n'est pas là, je sais pas.
C'est peut-être pour ça. Ensuite, alors les nouvelles. Donc il y a le blog post en anglais et il a été traduit en français, donc mettons-le en français, avec tous les nouveaux services Windows Azure disponibles. Donc en gros, on va avoir un chapitre Windows Azure Virtual Machine, Virtual Network, Websites, des nouveaux outils et la disponibilité dans de nouveaux pays, ce qui nous concerne un peu moins, puisque de toute façon, c'était déjà disponible en France, Azure. Et
Oui, enfin,
donc,
toute la galaxie francophone maintenant est couverte, donc c'est
c'est
pas
vrai.
inintéressant.
Tout à fait. Et puis, un autre blog post qui rentre un tout petit peu plus dans le détail, donc fait par Bob Kelly, et qui donne effectivement le détail. Alors, il y a des choses qui ont été améliorées au niveau des services existants, donc comme par exemple SQL Reporting. Alors, il y a aussi les noms qui changent un petit peu. Tout ça pour s'aligner sur Windows Azure. Donc, on va avoir Windows Azure SQL Reporting, Windows Azure SQL Database. versus les anciens SQL Azure par exemple. On a donc le SQL Reporting qui devient disponible en version finale. On a également le cache distribué qui maintenant peut aller s'installer dans les machines virtuelles. On pourra voir ça peut-être tout à l'heure. Le stockage qui a quelques améliorations, comme par exemple les shards access signature sur les tables qui n'existaient que sur les blobs pour l'instant. De la compliance pour ceux qui s'intéressent aux problématiques de sécurité, et c'est toujours important. Donc là, il y a le Windows Azure Trust Center qui a été mis à jour. Les machines virtuelles, Windows Azure, on va y revenir, le réseau virtuel, etc. Et donc là, on retombe dans le détail donc, de ce qu'on va pouvoir apercevoir maintenant. Et donc, j'en ai fini pour les liens du jour.
Eh ben.
Donc, revenons aux diapositives, pardon, à l'autre.
Alors, on va maintenant se lancer un peu dans les nouveautés, du coup. Donc, ce qui a été présenté le 7 juin, c'est plein de nouvelles choses. C'est une galaxie de nouveautés. Donc, ce qu'on a choisi de retenir pour ce bulletin Azure, c'est juste de vous dire qu'aujourd'hui, si vous décidez d'aller vers du cloud computing et a fortiori vers Windows Azure, vous avez trois angles d'attaque pour déployer votre première application. Un angle que vous connaissez déjà. Qui s'appelle maintenant Cloud Services, qui était tout le périmètre précédemment couvert par Windows Azure, et deux nouvelles façons de s'y attaquer, qui sont un côté machine virtuelle et un côté site web, d'où les noms sans trop d'imagination, qui sont Websites pour la partie site web et Virtual Machines pour la partie machine virtuelle. Donc on va les...
Par rapport à, si on prend l'axe flexibilité et l'axe choses à gérer, en gros, on a, là où on a le moins de choses à gérer, c'est avec les websites. Là où on a le plus, c'est dans les virtual machines. Et inversement, en termes de flexibilité, c'est là où on a le plus de choses à gérer, qu'on a le plus de flexibilité aussi, avec virtual machines.
Oui, donc en gros, quand on classiquement, on oppose un peu PaaS et IaaS en disant PaaS, c'est moins de flexibilité, plus de choses qui se gèrent d'elles-mêmes. IaaS, c'est plus de flexibilité, plus de choses à faire. Et ben, website, c'est plus de PaaS. Et Virtual Machine, c'est plus de IaaS.
Exactement. Donc, voyons comment les choses se présentent. Alors, si je vais dans le site, alors je vais fermer un peu deux, trois trucs ici. Pardon, je vais continuer ici. Donc, ça, c'est le site tel que je l'ai aujourd'hui. Donc, oui. Le site en Silverlight qu'on a ici, donc qui est à windows.azure.com, hein, avec les différents abonnements. Et puis, dans les abonnements, par exemple, là, on voit un déploiement qui a lieu dans l'emplacement Azure, qui est là.
Bon, passons. Il est remplacé.
Il est remplacé par manage.windowsazure.com, où on voit exactement, c'est exactement les mêmes données là, mais vu avec le portail qu'on a ici. Donc en particulier, par exemple, je vois tout dans tous les éléments, donc j'ai du cloud, de la base de données et du stockage non relationnel, et dedans je vais retrouver par exemple l'emplacement Azure, donc le même que tout à l'heure, avec le fait que j'ai effectivement deux cœurs qui sont déployés. Là j'ai un monitoring, bon j'ai pas mis beaucoup d'indicateurs, hein, j'ai juste la CPU. On voit que le site est plutôt tranquille. Et donc j'ai ma ferme web, et donc je peux voir les choses de cette façon-là. On va pouvoir voir également d'autres éléments après, en particulier cette barre-là qui est assez intéressante et qui permet d'avoir les actions les plus importantes qui sont ici, et également de suivre les traitements asynchrones qui ont lieu pour pouvoir voir où ça en est.
On va peut-être juste préciser que tout ça est en HTML5 du sol au plafond.
Oui.
Le but étant de pouvoir manipuler le portail sous tous les systèmes d'exploitation qu'un développeur est amené à utiliser, et pas seulement du Silverlight qui aujourd'hui restreignait à Mac et PC et excluait un peu Linux.
Voilà, exactement. Donc là, les bases de données relationnelles, donc on voit les mêmes bases avec leur taille, etc. Et puis le stockage, donc là j'ai effectivement différents comptes de stockage avec plein de choses dedans. Je vais passer sur un autre site, mais qui normalement devrait être... non, pardon. Alors, je vais d'abord montrer comment est-ce qu'on accède aux nouvelles fonctionnalités. Parce que là, j'accède avec ce portail, dans ce compte-là, je n'ai accès qu'aux fonctionnalités existantes. Je n'ai pas les nouvelles fonctionnalités. Donc, j'ai Cloud Services et non pas Websites ni Virtual Machines. Donc, pour demander l'accès, en fait, je vais sur le site Windows Azure, c'est-à-dire www.windowsazure.com. Et là, je m'authentifie avec mon compte Live ID normal, hein, enfin celui qui est administrateur de mes abonnements. Et je peux aller dans Account, donc là je me reconnecte. Voilà. Et je vais pouvoir aller demander l'accès aux nouvelles fonctionnalités. Donc je vais dans Preview Features.
Voilà, et on va trouver trois pans.
Exactement. Donc
Media Services, dont on a parlé tout à l'heure, et sur lequel il y a du contenu qui commence à arriver très détaillé. Mm-hmm. Et les deux grands pans de Windows Azure plus généralistes. Donc Websites pour gérer des sites web sans s'occuper de rien. Et Virtual Machines pour s'occuper de absolument tout, sauf en gros du hardware. Quoi.
Voilà. Donc pour voir si vous suivez, on vous les met toujours dans un ordre différent. Hein. Dans les slides, ici, dans le portail, on essaie de changer l'ordre à chaque fois.
Voilà. Voir. Alors là, il ne les a pas activés, mais on a un deuxième compte sur lequel ils sont activés. Donc on va voir la tête que ça a lorsqu'on bascule dans le portail avec toutes les previews actives.
Donc qu'est-ce que ça donne sur un compte full patate?
Voilà. T'as pas zoomé là, éventuellement?
Oui.
Alors, eh bien, zoomons un petit peu. Donc, si vous regardez dans les nouvelles fonctionnalités, on trouve ce que vous connaissiez déjà. Et puis, il y a donc deux.
Ce qu'on connaissait déjà, Cloud Services, SQL Database et Storage.
Voilà. Et on a deux nouveautés très transverses qui sont Machine Virtuelle d'un côté et Cloud Services de l'autre. Et puis, Networks qui va nous donner.
Non, Machine Virtuelle et Websites.
Oui, ce que j'ai dit.
Oui, pardon.
Voilà. Et Networks ensuite qui va nous donner d'autres fonctionnalités plus transverses.
Exactement.
Donc on va commencer peut-être par Websites.
Exactement. Alors, Websites, qu'est-ce que c'est que Websites? C'est en gros des fermes web, IIS, qui sont mutualisées par défaut et dans lesquelles on va pouvoir déployer son application quasiment instantanément. Pour ceux qui ont déjà utilisé les WA Web Roles, Windows Azure Accelerator for Web Roles, ça ressemble vraiment à ça en fait, mais déployé de façon un peu plus industrielle, disons, enfin, et déjà pré-déployé.
Ouais.
Donc en fait, si on veut créer un nouveau site web, donc commençons par ça, on va pouvoir, donc là je vais dans New, et je dis je veux un nouveau site web, et je peux créer donc un site web vide, ou un site web. Alors ce site web, on va pouvoir mettre dedans du Node, du PHP, de la ASP.NET. On n'a pas besoin de préciser ce qu'on veut mettre dedans. Il y a déjà les runtimes qui sont disponibles. Il n'y a plus qu'à ajouter les fichiers après par des moyens qu'on va avoir. Donc un site web comme ça. Ou alors un site web avec une base. Et cette base-là, ça peut être une base SQL Database, donc Windows Azure SQL Database, ou ça peut être une base MySQL également, puisqu'on a un partenaire qui propose ce type de base. Et donc voilà. Et puis, on peut également faire un déploiement depuis la galerie, donc où il y a un ensemble de sites web qui sont déjà disponibles et prêts à fonctionner dans les sites web. Donc là, par exemple, on peut avoir Joomla, du .NET Nuke, etc. Donc une fois qu'on a choisi, alors pardon, il y a différents sites. Voilà, on peut avoir du Orchard, du Umbraco, WordPress et tout. Donc si on fait par exemple un Orchard, parce que
allons-y,
voilà, on va dire voilà mon Orchard. Donc c'est un CMS en .NET là en l'occurrence, mais voilà. Et je vais pouvoir dire, voilà, je veux mon Orchard.
Et, Orchard en l'occurrence, mais
c'est autre chose.
C'est plus facile à prononcer et puis personne l'a pris celui-là.
Exactement. Donc ça met quelques. Là, il est en train de déployer. On va attendre que ça se déploie parce que c'est assez rapide normalement. Il y a vraiment quelques secondes normalement pour le faire. Donc de la même façon, en fait, j'ai déployé par exemple un WordPress. Et donc on peut voir le WordPress ici. Qui est là, donc avec sa base MySQL en l'occurrence. Et donc si je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre, je vais avoir accès à ce WordPress. Donc là, je l'ai ouvert, voilà. J'ai mon site, je peux m'y connecter, j'ai le login, etc. Alors, je ne suis pas sûr que je me souvienne du mot de passe, mais bon, voilà, je peux me connecter et puis aller modifier tout ce que je veux dessus. Je vais essayer quand même au cas où. Ah bah oui, tiens, je m'en souviens. Et donc voilà, avec effectivement, je peux aller créer un nouveau poste, etc.
Très bien. Alors, on va quand même revenir sur le site et constater
Voilà, donc mon Rorschach,
que mon Rorschach
que
est running.
mon Orchard est bien up and running, effectivement, mon Orchard, donc site URL, open in new window. Et donc là, il va me demander en fait d'initialiser le site. Enfin, c'est le
La phase
mode
de
de
setup
démarrage
initiale, oui.
standard de la plupart des CMS, hein, que de faire ça. Donc là, je pense qu'il fait du just-in-time compilation, puisque c'est de l'ASP.NET. Et voilà, donc j'ai la page de démarrage où il me demande comment est-ce que je veux démarrer ce CMS. Donc on voit que c'est vraiment rapide de créer un nouveau site.
Alors, on va pas avoir le temps, je pense, de vous passer en entier en revue. Donc, juste vous donner deux ou trois caractéristiques intéressantes de ce modèle-là. Le but principal, c'est de vous permettre d'avoir très vite des applications qui tournent et que vous n'ayez pas trop à vous préoccuper des spécificités d'Azure, etc., etc. Alors, c'est ce que font beaucoup de hosters aujourd'hui. Il y a plein de contrôle panel spécialisés qui font ça. La différence importante que vous voyez ici, hein, ce que Benjamin vient d'afficher, c'est la capacité à monter en charge facilement depuis une toute petite instance qui est en gros partagée avec d'autres personnes. Et donc il y a des fermes dédiées à l'hébergement mutualisé, c'est comme ça que fonctionne par défaut Azure Websites,
Exactement.
à du réservé. Donc vous voyez ici la possibilité de passer de mutualisé à dédié. Il n'y a pas d'accord particulier avec un hosteur, c'est une décision que vous prenez instantanément. Et vous n'avez plus ensuite qu'à choisir la taille et le nombre de machines, et automatiquement tout va suivre. Donc voilà pour le principe. Alors ça n'est pas magique, hein. Il y a toujours les mêmes petites questions de mutualisation du stockage, et c'est pour ça qu'on a les services de stockage à côté.
Exactement.
Mais la base de données, ça fonctionne déjà en standard, donc ça vous permet de changer très très vite de configuration.
Oui, enfin, en tout cas, la première expérience, elle est complètement magique, le fait de pouvoir effectivement démarrer son WordPress ou son autre, ou Joomla ou autre, hein, où là, il s'agit de juste démarrer et c'est prêt et ça fonctionne, c'est fonctionnel, etc.
Alors le deuxième point qu'on vous montrera très peu, mais qui est très important, c'est lorsqu'on déploie un site pour la première fois, c'est très joli, ensuite il évolue. Et donc ce site, pour évoluer, quand vous êtes sur de l'Azure traditionnel, il faut refaire un package, et ce package, il prend entre 10 et 15 minutes à être déployé. Et donc vous avez des versions strictes, du staging, de la prod, ce qui est parfait pour des gros déploiements. Quand on veut être en mode agile pour des petits sites, on aime bien pouvoir faire ces mises à jour à chaud. Et donc ce qu'on a mis en place là-dessus, si on va jeter un œil à un des sites web, n'importe lequel,
celui-là par exemple,
voilà, ces différents
non,
modes
plutôt celui-là, oui.
de publication. Et il y en a un qui est très important. On a mis en place de la publication par FTP pour vous permettre de ne pas changer vos habitudes par rapport au hoster classique que vous pouviez utiliser. Et donc vous donner la facilité et l'élasticité là-dessus, la vitesse de déploiement, tout en gardant vos outils habituels.
Exactement. Donc là, vraiment, il suffit d'aller. Alors, on peut changer évidemment le mot de passe de ce compte-là. Et après, on se connecte avec ce compte-là à cette URL-là avec un FileZilla, n'importe quoi, enfin n'importe quel client FTP. Et on peut mettre à jour les fichiers.
Voilà. Bon, il y a aussi du Git et du TFS, hein, pour les gens qui sont un peu plus structurés. Et dernier point intéressant, si vous n'avez pas d'outils pour développer, si vous êtes sur une machine d'occasion et qu'il s'agit de retoucher à la volée, et bien comme le scénario, c'est de vous permettre de faire les choses rapidement, dans la foulée, on a directement intégré WebMetrics, l'environnement de développement un peu light qu'on propose, au portail. Et donc c'est ce qu'on voit là.
Voilà.
Et
Donc là, ça va démarrer WebMetrics et on va pouvoir avoir accès en fait au contenu du site web et aller le modifier de cette façon-là, quoi. Donc voilà une expérience. Alors là, il faut que je le démarre en top. Ah ben je ne l'ai pas installé, pardon. Oui, donc.
Ouais, bah donc,
Sur
donc
cette
du
machine-là,
coup,
il n'est pas installé.
Mais c'est très bien. On ne va pas le laisser tourner
Non.
jusqu'au bout parce qu'il se peut qu'il y ait des petits prérequis, mais il vous prend par la main pour toute l'installation, du début jusqu'à la fin, avec tous les prérequis nécessaires.
Exactement.
Donc ça vous donne la capacité de faire le setup sur une machine vierge instantanément depuis le site web. Alors, cette partie est spécifique à Windows, puisque c'est WebMetrics, hein. Tout le reste marche indifféremment, quelle que soit la plateforme.
Exactement. Ensuite, donc Cloud Services, on l'a vu, enfin c'est grosso modo la même chose que ce qui
Oui,
existe
venez le 20
déjà, mais vu
juin, on vous en
différemment.
parlera.
Il n'y a pas, enfin c'est pas ce qui est vraiment le plus nouveau. Ensuite, évidemment, l'autre nouveauté, c'est Virtual Machines.
Le truc dont tout le monde parle.
Donc, Virtual Machines, c'est le fait de pouvoir, évidemment, créer. Donc, même principe, hein, je dis, j'ai une machine virtuelle et je veux créer une nouvelle machine virtuelle. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, typiquement, dans les scénarios qui ont été testés par les équipes Windows Azure et qui étaient un moyen de vérifier que, effectivement, cette nouvelle infrastructure de service était un succès, il y avait le fait de pouvoir faire fonctionner SharePoint. Parce que SharePoint, ça suppose d'avoir SQL Server et puis, en l'occurrence, ça peut supposer également d'avoir Active Directory. Donc là, on va avoir ici, j'ai un déploiement avec deux serveurs SharePoint, SPVM 4B et 4A, qui sont ma ferme SharePoint. Et puis, j'ai aussi un contrôleur de domaine et un serveur SQL. Donc, comment est-ce qu'on crée ces machines virtuelles? Eh bien, on va le faire de la façon suivante. Même chose, New, Virtual Machine. Et là, je peux dire soit Quick Create, et dans ce cas-là, je peux choisir donc quelques machines, donc comme du Windows 2008 R2 ou du SQL Server
Oui,
avec
donc
Windows 2008 R2.
là, on a les VM maintenues par Microsoft, en
C'est
gros. Donc,
ça.
tous les VHD que nous faisons nous-mêmes et toutes les images que nous mettons à disposition sont là-dedans. Et dans la galerie, on a également des partenaires qui sont venus s'intégrer.
Voilà.
Et donc les distributions complémentaires sont apportées par des partenaires qui, eux, ont les compétences nécessaires et l'expertise pour ces machines qui sont un peu spécifiques, puisque, encore une fois, du Linux, ben, ce n'est pas notre premier domaine de compétences, on va dire.
Exactement.
Et donc vous trouverez effectivement une CentOS, deux SUSE et
Ouais.
une Ubuntu, si vous voulez creuser dans cette direction-là. Le
Et
scénario, quand même, juste avant qu'on avance, c'est de vous permettre de prendre une application qui est aujourd'hui déployée à l'intérieur de l'entreprise sur un petit parc de machines, entre une et quatre machines, on va dire, et de vous amener directement à du déploiement en mode cloud sans que vous ayez à retoucher l'application. Alors, c'est très séduisant parce que ça vous permet d'arriver vite fait sur le cloud et donc pour de la consolidation, pour rationaliser un petit peu votre infrastructure, c'est très efficace. Attention, ce n'est pas la panacée. Il est bien évident que derrière, ça reste des machines virtuelles que vous administrez vous-même. Et donc, il y a plein de tâches qui n'existent pas dans le mode cloud services qui fait pour vous plein de choses.
typiquement,
Voilà.
on se reconnecte sur une machine virtuelle, il dit ah, new updates are available for you.
Voilà, ce genre de choses.
Exactement. Et puis, il y a également le fait de pouvoir faire ses propres images. Donc là, par exemple, quand j'ai créé les deux machines virtuelles SharePoint, j'ai commencé par installer les éléments fondamentaux de SharePoint. J'en ai fait une image et ensuite, je l'ai instancié deux fois pour finir de configurer SharePoint dans cette ferme.
Voilà. Alors juste parce que moi j'étais un peu inquiet devant My Image et My Disk.
Oui.
Une
Ah oui, alors.
image, c'est un disque 6 prépé.
Voilà.
Et ça permet de reconstituer des machines au sein de la même ferme, elles
C'est
seront
multipliable.
distinctes. Voilà. Un disque, eh ben, c'est juste un snapshot de VHD, pour
Voilà.
prendre des termes
C'est-à-dire
tout
que
anglais.
voilà, typiquement à partir de là, je peux faire 10 machines SharePoint. À partir de là, je peux faire une machine SPImage 4, enfin avec cette OS-là. Donc voilà pour les machines virtuelles. Donc on va pas vous créer une machine virtuelle là dans le détail, mais en tout cas après on a effectivement accès à ces machines. Alors après il y a effectivement par exemple un endpoint qui là est sur le port 80 en public et qui correspond au port 80 en privé, et on voit qu'il est load balancé. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes. Et également, rapidement par rapport à l'infrastructure de service, ces machines virtuelles-là fonctionnent dans des réseaux, et donc on peut définir notre propre système d'adressage réseau. Donc là, par exemple, on a un espace d'adressage qui est en 192.168.0.0 avec deux subnets, 192.168.1 et 2. Après, on va dire, bah, par exemple, l'Active Directory il se trouve dans celui-ci et les applications, donc SQL et SharePoint, se trouvent dans celui-ci.
Oui. C'est là qu'on touche aussi du doigt le fait que YAS, c'est plus de boulot. Donc on vous donne plein d'outils pour le faire. Hein.
Voilà.
Et un dernier point que je voudrais vous montrer aussi sur cette partie-là, et là je pense aux gens qui ne sont pas sous Windows d'habitude, je voudrais qu'on revienne un petit peu voir les endpoints qui sont associés aux
Oui.
machines.
D'accord.
Quand on prend une machine en RDP et qu'elle est sur Azure, traditionnellement on utilise une fonctionnalité un peu spécifique du client RDP de Windows qui permet de faire un rebond par un serveur public pour accéder à un serveur privé. Ouais. Et cette fonctionnalité n'est pas toujours implémentée sur les autres viewers RDP, notamment les clients RDP qui peuvent exister sous Mac ou sous Linux. Donc on a changé ici les choses et vous voyez là les ports attribués directement à mon RDP. Donc le port...
On peut changer d'ailleurs parce que là il m'avait fourni le 56 quelque chose et en faisant un edit... Endpoint, non pas en faisant le bulletin Azure, en faisant un edit endpoint ici, je peux changer effectivement et dire c'est le 50102 ou...
Mais on s'en fiche, le but c'est surtout qu'on peut se connecter directement sans utiliser cette fonctionnalité spécifique et que donc n'importe quel OS est maintenant capable d'utiliser son viewer RDP pour accéder aux machines dans Azure. C'est surtout ça que je voulais montrer là-dessus.
Oui, effectivement. Une autre façon de le dire aussi, c'est qu'avant, il fallait absolument télécharger le RDP parce que dedans, il y avait des informations de routage. Là, maintenant, si je fais directement à partir d'un MSTSC Remote Desktop et que je rentre les informations qui sont ici, eh bien, ça va fonctionner directement. Donc, c'est un RDP complètement standard, quoi.
Tout à fait.
Voilà, je crois qu'on a fait... un tour très très rapide, mais en tout cas un tour des nouvelles fonctionnalités. Tu voyais d'autres choses à préciser pour l'instant, à ce stade ?
Non, il y a de quoi faire à peu près encore 4 heures d'enregistrement. C'est ça. Mais on va se garder ça pour le 20 juin, où on fera en live. Oui. Et après, je pense qu'on vous fera quelques petits zooms avec des clients dans les mois à venir, puisqu'il y a plein de gens aujourd'hui avec qui on travaille sur cette nouvelle fonction. Donc on sait que vous aimez bien les témoignages clients dans le bulletin Azure. Oui. Et on essaiera d'explorer ces fonctionnalités à travers des cas réels, en voyant un petit peu comment ça a servi et à qui ça a servi.
Très bien.
Et bien voilà pour ce petit tour de la Spring Release. Donc c'était son nom initial et effectivement elle est sortie avant le 21 juin, donc on est toujours au printemps, même si ça a été un petit peu serré.
Voilà, et donc en France nous allons la présenter le 20 juin puisque c'est le printemps. Très bien, et bien à bientôt pour un prochain bulletin Azure, soit témoignage, soit numéro. Numéro a priori dans un mois à peu près. Et voilà.
Merci
à bientôt.
À tous.